Bonjour à tous et bon sabbat. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? S'il y a une phrase qui décrit une ressource très limitée dans le monde d'aujourd'hui, c'est que tout le monde est en compétition pour obtenir notre attention. Le cinéaste et consultant en médias Phil Cook a déclaré que la marchandise la plus précieuse du 21e siècle sera d'avoir l'attention totale d'une personne. Nous comprenons la valeur de notre temps et notre argent, bien sûr, mais lorsque nous allons plus loin et que nous commençons à discuter d'avoir votre attention totale, nous commençons à réaliser combien il peut être difficile de se concentrer sur une chose à la fois. Le monotasking est un terme utilisé pour décrire le fait de se concentrer sur une seule tâche à la fois. C'est ainsi que les humains ont fonctionné pendant la plus grande partie de notre histoire. Mais avec l'avènement de nombreuses technologies modernes, nous sommes souvent interrompus par des textos ou d'autres notifications sur notre téléphone. Même le téléphone sonne. Nous ressentirons la pression des courriels ou des notifications Facebook qui ont besoin de notre réponse. Et même dans la technologie, nous pouvons ressentir sous pression en essayant de faire plusieurs choses en même temps parce qu'il y a tellement de choses à faire. Nous appelons cela de multitasking. Multitasking, c'est-à-dire faire plusieurs choses à la fois et nous pensons que nous sommes productifs. Mais en fait, selon une étude publiée dans le magazine Inc., le monotasking, et non le multitasking, est la clé pour faire avancer les choses. De plus, la durée de notre attention est de plus en plus courte, car de plus en plus de suggestions simultanées nous sont adressées par les médias. Selon l'étude de l'entreprise Microsoft publiée dans la revue Time Magazine en mai 2015, notre durée d'attention est passée de 12 secondes à 8 secondes depuis l'année 2000. L'étude a noté qu'un poisson rouge a une durée d'attention de 9 secondes, ce qui signifie qu'en général, les humains ont maintenant une durée d'attention plus courte qu'un poisson rouge. 8 secondes comparé à 9 secondes. Voilà, incroyable. Je ne sais pas comment il peut mesurer ça, mais il peut. L'attention est aussi un concept biblique important et en fait, elle est décrite comme une caractéristique essentielle d'un disciple de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de l'attention et de notre capacité à nous concentrer sur les choses importantes. Il s'agit de notre capacité à nous concentrer ce qui compte pour que personne ne puisse prendre notre couronne. Nous discuterons de l'importance critique de prêter attention. Puis, nous discuterons de trois principes bibliques qui ont trait à l'attention. En fin de compte, j'espère que nous repartirons avec un sentiment d'urgence pour mieux comprendre comment Dieu cherchait à nous transformer à ses fils et filles pour le service dans son royaume. Le titre de ce sermon, bien sûr, est « Puis-je avoir votre attention ?» Et j'espère que j'ai toujours votre attention. Commençons par Hébreux 2, où nous voyons combien il est essentiel de prêter attention et les risques qui découle de la négligence. Donc, Hébreux 2, et verset 1. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreux 2 et verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peu que nous ne soyons emportés loin d'elles. Le Version Darby traduit ce verset en utilisant la phrase de porter une plus grande attention. Elle dit, c'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peu que nous ne nous écartions. Le mot attaché ou porter une plus grande attention, ici dans verset 1, est le mot prosecco, P-R-O-S-E-C-H-O, prosecco. Et il est utilisé dans tout le Nouveau Testament. Il se traduit par attaché, bien sûr, ici, prenez garde, soyez sur vos gardes, donnez-vous à. Nous verrons que la Bible est pleine d'exhortations au sujet de prêter attention. Notez maintenant le verset 2 à 3, parce que ce concept va être profondément développé dans ce court passage. Ce court passage, regarde. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut. Le mot rétribution peut aussi se traduire par pénalité ou châtiment. La Bible du Semeur utilise le terme la sanction qu'elle méritait. L'auteur dit que toute transgression et désobéissance entraînera un châtiment, et si les paroles sont vraies, comme l'ont attesté les messagers de Dieu, comment sera-t-il possible d'échapper aux conséquences de nos actes, et si nous ne faisons pas attention? Au lieu de dire « ne faites pas attention », l'auteur utilise le terme « négligence ». La négligence est l'opposé de faire attention. Nous pourrions utiliser le mot « négligence » dans le contexte de notre santé. Peut-être avons-nous entendu quelqu'un dire « quand j'étais jeune, j'ai négligé ma santé et maintenant je souffre à cause de cela ». Le fait de ne pas faire attention apporte des conséquences. Nous utilisons souvent le mot négligence dans le contexte de la description de rôle parental. On pourrait dire par exemple, ces enfants ont été négligés, ce qui signifie que les parents n'ont pas prêté suffisamment attention à leurs enfants. Cela signifie que les parents n'étaient pas concentrés sur les besoins de leurs enfants et leurs enfants en souffert. Et cela nous amène à un concept plus large de ce que nous appelons aujourd'hui la responsabilité. La responsabilité. Le Larousse définit la responsabilité comme étant une obligation ou une nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Donc, en considérant le passage, le point important à retenir est que l'on nous dit que nous serons tenus responsables des choses que nous avons entendues. Relisons le verset 1, encore une fois. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et puis, les versets 2 à 3 ne sont qu'une longue question. J'ai parlé des tendances sociétales vers un manque d'attention, mais il y a une autre tendance liée à un manque de responsabilisation. Dans un article paru dans le magazine Forbes de 7 septembre 2016 par Cathy Caprino, intitulé « La reprise de responsabilité est-elle morte dans notre culture ?» Quel titre ! Madame Caprino écrit, et je cite maintenant, « Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous voyons des signes que la véritable prise de responsabilité semble être un trait de caractère en voie de disparition, tant chez jeunes professionnels que chez les plus âgés. Il est clair que l'obligation de devoir rendre de compte diminue. » Elle poursuit en écrivant, « Quand il y a un manque de prise de responsabilité, et d'attentes claires, l'orgueil de la nature humaine, ses peurs et sa tendance naturelle de prendre des raccourcis et à adopter des comportements égoïstes, entrant en jeu, ce qui conduit à des comportements déshonorants. Nous voyons cette tendance dans le monde entier. » Incroyable, c'est pas un article dans la dans notre revue pour l'avenir, c'est dans un magazine comme Forbes. Selon elle, il s'agit d'une tendance mondiale et nous ne devrions pas penser que nous sommes à l'abri de ce changement sociétal. Négliger et ne pas prêter attention à notre santé, à nos familles ou à notre salut entraînera une pénalité, une rétribution. La façon dont je résumerai les versets 1 à 4 à Hébreux 2 est « Faites attention ou vous ne vous en ne sauterez pas vivante. » Vivant. Voyons donc un exemple des conséquences de ne pas prêter attention. Reportez-vous, s'il vous plaît, à 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 et verset 1 à 10. On peut peut-être dire 12, mais 2 Samuel 6, et verset 1. On peut commencer à verset 1. 2 Samuel 6, verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda pour faire monter de l'arche de Dieu, devant lequel est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre le chérubim au-dessus de l'arche. La plupart des érudits souligneront que c'est ici un moment crucial pour David. David déclare que Jérusalem, sa nouvelle capitale, ne sera pas seulement le centre politique de la nation d'Israël, mais son centre religieux. L'arche qui avait été capturée par les Philistins et leur avait causé tant de dommages allait être apportée à Jérusalem. Elle était restée dans l'obscurité, dans une ville qui s'appelle Kiriath-Jearim, probablement en raison de la grande crainte qui suscitait son pouvoir. Et elle allait maintenant être transférée à Jérusalem. Regardez maintenant verset 3. Ils mirent sur un chair neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Osa et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le chair neuf. Ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Osa marchait à côté de l'arche de Dieu, et Acho allait devant l'arche. Verset 5 maintenant. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, cyprès, des arpres, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Nous pouvons lire des passages parallèles sur cet événement dans 1 Chronique 13 aussi. C'est un moment spécial pour la nation et pour David en particulier. La puissance et la présence de Dieu et la crainte de l'Arche de l'Alliance et ce qu'elle représentait allait être placé à Jérusalem. Cela allait dynamiser la nation d'Israël et allait renforcer son sentiment d'identité nationale. Il aurait une nouvelle capitale. En effet, Jérusalem fut le centre de leur identité pendant 1000 ans. Même si elle fut détruite par les Babyloniens, puis par les Romains, et même après sa destruction par les Romains, elle est restée la ville symbole de leur identité pendant encore 2000 ans. Aujourd'hui encore, cette cérémonie et l'importance de Jérusalem affectent les événements mondiaux. Mais que s'est-il passé? Lisons maintenant versets 6 à 7. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Ouza étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit parce que les bœufs le faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ouza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Ouza mourut là, près de l'arche de Dieu. Que s'est-il passé? Cet homme rempli de meilleures intentions, étendit la main pour stabiliser l'arche et il fut frappé. Avez-vous déjà entendu l'expression « le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions » Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, ça c'est des bonnes intentions. Voyez la réaction de David au verset 8. Quelle honte! David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ouza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré-Ouza. David a peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entraînait-il chez moi? David, il était abasourdi par la colère et rempli de peur. Il peut dire, pourquoi Dieu fait-il une telle chose? À qui ai-je affaire? Comment puis-je interagir avec un être comme ça? David a donc fait ce que chacun d'entre nous devait faire lorsque nous faisons face à un revers de situation. Il s'est arrêté pour se calmer, a réévalué ses plans et a eu une sorte de période de réflexion. Lisons le verset 10 maintenant, 10 à 12. Il ne voulait pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gat. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gat, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Ce s'est-il donc passé? Pourquoi il y a un problème? Eh bien, pour comprendre la réponse, reportez-vous s'il vous plaît à Nombre chapitre 4 et verset 15. Nombre, chapitre 4 et verset 15. Et lisons l'instruction que Dieu avait donnée pour déplacer l'arche. Nombre, chapitre 4 et verset 15 ici. Après que Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les outensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées au fils de Kehath dans les temps d'assassination. Nous pouvons voir que l'arche ne devait pas être transportée par des animaux sur une charrette. Elle devait être portée par des hommes et plus particulièrement par des descendants de Kehath. David, le savait-il? Je ne sais pas. Les sacrificateurs, le savaient-ils? Nous ne le savons pas exactement. Mais ils s'en sont certainement rendus compte plus tard. Parce que lorsque David a essayé de nouveau transporter l'arche, ce sont des hommes qui l'a porté. Reportez-vous encore une fois à 2 Samuel 6 pour finir l'histoire. 2 Samuel 6. Pour finir l'histoire. Maintenant, verset 12. On veut dire au roi Israël, au roi David, pardon, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui était à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fut monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Et verset 13 maintenant. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, eux, faisaient 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David devait prêter attention. Il devait prêter attention. Oui, bien sûr. Il ne pouvait pas négliger les instructions. Que Dieu, il ne peut pas laisser l'instruction de Dieu, avait donné sur la façon de transporter et de traiter l'arche. C'est là que les résidait la présence de Dieu et les instructions de Dieu devaient être respectées à la lettre. Nos bonnes intentions, notre désir honnête de servir Dieu doivent être ajoutés au fait de prêter attention aux instructions de Dieu. Sinon, nous nous tromperons nous-mêmes en pensant que nos bonnes intentions sont suffisantes. Nos bonnes intentions sont un merveilleux début, mais elles doivent être accompagnées d'une soumission aux instructions de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais passer en revue 3 principes sur la manière de transformer nos bonnes intentions, de prêter attention aux instructions de Dieu, en des actions spécifiques que nous pouvons prendre pour véritablement prêter attention. Voilà, le premier principe que je partagerai à propos de prêter attention est d'écouter les serviteurs de Dieu. Voyons cette admonition dans Pierre, dans 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre 1, et verset 19. On peut commencer dans verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est puisé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le mot prophétique dans ce contexte veut dire une prédication inspirée. Pierre dit de prêter attention aux paroles prononcé par ses serviteurs d'un environnement où la prédication a lieu. Cela peut être lors d'une étude biblique, à l'assemblée ou à la fête. Le fait que nous devons nous placer dans ces environnements nous rend à l'assemblée, à la fête, pour que nos priorités puissent être remises en question et ajustées. Je pense que c'est pourquoi on nous dit d'avoir une sainte convocation chaque sabbat dans Lévitique 23. Et pourquoi il est dit dans Hébreux 10 et verset 25, Hébreux 10 et verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Ce processus ne devrait pas être passif en se présentant simplement à l'assemblée pour écouter un sermon. Ce processus devrait être actif. Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain? Ça, c'est les deux grands commandements. Quels sont les symptômes que nous voyons en nous pendant la semaine? Et comment la parole de Dieu s'applique-t-il à cette situation? Ce processus de réflexion peut se dérouler en groupe, en famille, ou peut-être juste avec deux personnes. Voyons cela décrit dans Actes 16 et verset 14. Actes 16 Actes 16 et verset 14. Ça, c'est un autre exemple. Actes 16 et verset 14. Comme nous allions au lieu de prière, Actes 16 et verset 14, voilà. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Voici encore une fois ce mot « attentive » ou « attention ». Dieu ouvre son cœur pour qu'elle prête attention aux choses qu'elle entendait de Paul. Ces paroles ont sans doute été prononcées dans la prédication formelle, peut-être lors de l'assemblée, et aussi probablement dans ces conversations privées. Demandons-nous des conseils ou nous retirons-nous en nous-mêmes sans chercher à recevoir de l'aide? Quelle est notre situation? Si nous ne cherchons pas le conseil, et en fait si nous n'écoutons pas ou ne prêtons pas attention aux conseils que nous ont été donnés, nous pouvons appeler cela de la négligence. De la négligence. Pendant des années, j'ai reçu et j'ai remis aux employés de mon équipe des évaluations annuelles de rendement. Et dans ces examens, il y a toujours une section concernant les points forts et les points forts de la personne et ses points de développement personnel. Une chose que j'ai vue à maintes reprises, c'est qu'il était vraiment rare qu'une personne se concentrait à porter des choses et à ses points de développement. Soit la personne n'accepte pas que ses domaines de développement aient de l'importance, soit si elle acceptait que les changements étaient nécessaires, elle n'y a consacré pas assez de temps. On ne cherchait pas à recevoir des conseils pour changer. En général, il n'y avait que découragement et du désespoir quant à la capacité de changer. Dans certains cas assez graves, des gens ont littéralement été perdre leur travail, perdre leur poste, parce qu'ils ne peuvent pas prêter attention à leurs points faibles pour les développer et y apporter des changements importants. Une fois, je me souviens une fois, j'ai dû, quand j'ai aidé quelqu'un, je crois que ça c'est le mot, j'ai dû avoir la présence d'un agent de sécurité, même pour que la personne soit escortée hors du bâtiment. J'ai dû faire appel à un agent de sécurité parce que tout le monde craignait que la personne ne se mette en colère en voyant que son incapacité à changer avait entraîné la perte de son emploi. Prêtez attention. Demandez conseil. Écoutez les conseils et apportez des changements. C'est la soumission à un processus de conversion. C'est ce que Dieu cherche. Le deuxième principe que j'aimerais partager à propos de prêter attention est de prier pour comprendre la direction de Dieu. Prier pour comprendre la direction de Dieu. Certains diront peut-être que cela devrait être le premier principe, mais je pense que nous souvent cette prière pour la direction divine doivent venir en réponse à ce que nous avons entendu par la prédication et le conseil. Nous devrions prier pour que Dieu ouvre nos cœurs afin d'entendre l'instruction de Dieu pour nous. Reportez-vous s'il vous plaît à Jean chapitre 16. Jean chapitre 16 verset 13. Jean chapitre 16 verset 13. C'est un passage très connu. Mais c'est très important. On peut lire un passage ici concernant la direction de Dieu. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, que nous commençons notre journée, nous devrions demander à Dieu que son esprit nous guide pour que nous prêtions attention aux choses importantes, aux choses qui comptent. Très important, c'est l'Esprit Saint qui nous guide. Un autre passage, reportez-vous s'il vous plaît à Ésaïe 55. Ésaïe 55 et verset 6. Ésaïe 55 et versets 6 à 8. 55 et versets 5 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura piété de lui? À notre Dieu, qui ne laisse pas de pardonner. Car mes pensées, verset 8, c'est très important, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Quelle que soit notre tendance naturelle, quelle que soit la façon de penser que nous avons développées, si elles n'ont pas été examinées à la lumière des instructions de la Bible, alors qu'elles devraient être considérées comme suspectes. Paul a dit de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et en commençant notre journée par la prière, nous invitons l'Esprit de Dieu à ouvrir nos cœurs, ce que à quoi il est important de prêter attention au cours de la journée. Souvent, nous pouvons devenir esclaves de ce que l'on appelle la tyrannie de l'urgence. La tyrannie de l'urgence. Autrement dit, à faire attention à quelque chose juste parce que quelqu'un fait beaucoup de bruit à ce sujet. Dès notre réveil, nous allons être entraînés dans toutes sortes de directions. C'est pourquoi Phil Cook a appelé le fait d'avoir toute notre attention une ressource très limitée. J'aimerais lire un extrait du journal de management publié le 12 mars 2019 au sujet d'un article de Sabine Sonnentag intitulé « Rétachement matinal au travail ». Et je cite maintenant. En accord avec l'idée que les matins sont particulièrement importants pour donner le ton de la journée, Sonnentag et Kunell, ça c'est les deux auteurs, ont soutenu que lorsque les employés se rattachent mentalement de façon active à leur travail, dès le matin, ils sont plus engagés pendant la journée au travail. Le rattachement consiste à rétablir un lien mental avec le travail. Par exemple, en réfléchissant à des tâches précises ou en simulant mentalement la journée de travail avant de commencer à travailler. La réintégration se produit généralement pendant la transition entre le travail et la vie professionnelle et est largement sous le contrôle des employés. Moi, je trouve intéressant, ça c'est la fin de la citation, mais je trouve intéressant que l'étude visait à comprendre comment nous, en tant qu'individus, passons d'un état essentiellement non professionnel, après le sommeil, bien sûr, à un état de motivation et de préparation aux tâches de la journée. Et je pense que la prière est une partie importante de cette transition. Cela nous permet de prendre du recul par rapport au nombre de défis que nous préoccupons, qui nous préoccupent. Et en remercier d'abord Dieu pour les bénédictions que nous avons reçues, en demandant que son royaume vienne et que sa volonté soit faite, c'est-à-dire que nous lâchions notre emprise et remettions toutes ces choses entre ses mains, entre les mains de Dieu. Je ne veux pas quitter à ce point sans regarder un passage à Proverbe 3, verset 5. S'il vous plaît, reportez-vous à Proverbe 3, verset 5 à 8. Proverbe 3, si je peux le trouver. Voilà. Proverbe 3. Et verset 5 à 8. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et en rafraîchissement pour tes os. Un passage très important. Le troisième principe que j'aimerais partager au sujet de prêter attention est de se engager un plan à long terme pour prêter attention. S'engager un plan à long terme pour prêter l'attention, ou en d'autres termes, de pratiquer ce que l'on appelle la diligence. la diligence. Lorsque nous concentrons sur quelque chose de façon constante, nous appelons cela la diligence. Et reportez-vous, s'il vous plaît, encore une fois, à 2 Pierre 1 et maintenant au verset 5. 2 Pierre 2 Pierre 1 et verset 5. Et voyons le genre des choses pour lesquelles Pierre nous dit d'être diligent. Il dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. » C'est une autre façon de dire « prêtez attention » et cela de façon constante. Les mots « vos efforts » étaient liés au mot pour l'intention dont nous avons parlé précédemment. Et maintenant, il va à décrire les choses auxquelles nous devrions constamment prêter attention. Et je peux commencer encore une fois à verset 5, 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oublié la purification à ses anciens péchés. Quand Pierre commençait à parler de toutes les choses ici, il commence avec « faites attention » où il dit « faites tous vos efforts ». Et maintenant, remarquez comment il termine la discussion au verset 10. « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus. » Encore une fois, c'est le même mot, « prosecco », « d'autant plus ». À affirmer votre vocation. Pardon, ce n'est pas le même mot que attention, mais c'est le même sens que diligence ou attention constamment. Appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Quand Pierre dit appliquez-vous d'autant plus, c'est une autre façon de dire prêtez attention constamment. Ça, c'est la diligence. Soyez encore plus diligents. Ainsi, il commence à finir à nous exhortant à prêter toute notre attention de façon régulière et constante. Intéressant, en 1656, il y a longtemps, 1656, le célèbre mathématicien français Pascal, c'est très connu, écrive à son ami, et je cite, « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. » Intéressant, hein? « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. » Quand nous prenons le temps de prêter attention aux choses les plus importantes, à long terme, nos vies et pas seulement nos lettres s'amélioreront et nous pourrons nous réjouir de l'espérance en l'avenir dans le royaume de Dieu. En conclusion, chacun de nous a sa croix à porter. Chacun de nous est confronté au besoin de faire des percées dans notre vie spirituelle et d'apprendre ce que signifie d'être un fils de Dieu dans son royaume. Jésus a averti ses disciples en Luc 12 et verset 1, de gardez-vous de levain de pharisiens. Gardez-vous est le même mot pour prêter attention dont nous avons parlé. Je pense qu'il est dit clairement que notre propre orgueil peut nous égarer. Nous ne pouvons pas négliger. Nous ne pouvons pas être distraits. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre couronne en négligeant de confronter les choses auxquelles nous avons été appelés de vaincre. Nous en serons tenus responsables. J'espère que Dieu a notre attention.